Alors, le prix suivant, je demande donc à Fred Forest de bien vouloir venir me rejoindre. Fred Forest, artiste multimédia dont j'ai admiré les œuvres cet après-midi, mais qu'on n'est pas vu admirer les siennes, mais celles dont un autre artiste élu par le jury pour Ténérique 2006.
Alors, je suis particulièrement heureux d'abord d'avoir cette assemblée devant moi. Et donc, de remettre à la personne qui a été désignée le jury le prix qui correspond à l'art, c'est-à-dire à Miguel Chevalier qui est ici présent. Mais je vais profiter d'abord, le micro pour vous dire une chose très simple. Dans cette assemblée, il y a des chefs d'entreprise, il y a des responsables d'administration, il y a des informaticiens, et je pense que l'ensemble de ce public doit, une fois pour toutes, se débarrasser de l'idée de l'artiste maudit qui travaille sous les combles. Les artistes aujourd'hui travaillent avec les mêmes outils que les chefs d'entreprise, que les informaticiens, que les gens de la communication. Et très souvent et trop souvent, je rencontre parmi des gens très cultivés, très ouverts et très compétents dans leur domaine, une sorte d'ignorance ou de manque d'intérêt pour un art vivant qui se fait avec ces outils-là. Et j'ai beaucoup de chance de vous présenter Miguel parce que c'est le prototype d'un artiste qui est à la fois créatif, chef d'entreprise, homme de communication et qui travaille avec tous ces outils-là. Donc je lui remets avec un grand plaisir le prix Jacques qui lui revient. Miguel, en quelques instants, va vous donner quelques phrases de son travail.
Merci pour son prix. Donc, je vais essayer d'être bref aussi, mais en même temps, il faudrait absolument qu'on puisse voir à l'écran le PowerPoint. Je vais vous montrer quelques travaux qui font l'objet actuellement. Donc, des installations, en fait, j'utilise depuis maintenant, depuis le début des années 80, l'outil informatique comme un moyen d'expression à part entière dans le champ de la peinture. Et j'essaie de montrer que aujourd'hui, le numérique est aussi un des moyens pour régénérer le rapport à la peinture aujourd'hui. Alors, donc en fait, je vais vous montrer là une série d'œuvres qui sont parties. Sur un travail à partir de la génétique des plantes.
Expliquez que ça va tourner pendant la montée.
Donc, je crois que ça va être plus simple en voyant le travail. Deux mots, si vous voulez, j'ai créé avec des amis informaticiens en 2000 une série de graines virtuelles. J'ai composé un herbier virtuel qui est composé de 12 fleurs virtuelles. Ces fleurs, vous en voyez ici quelques-unes, c'est-à-dire que c'est des graines qui vont générer des tiges, des feuilles, des fleurs. Ces fleurs vont avoir une durée de vie. Elles vont mourir et quand elles meurent, elles génèrent une nouvelle graine qui ne pousse pas dans le même espace de l'écran. Donc à partir de là, on va pouvoir créer au lieu d'avoir des œuvres, si vous voulez, qui sont enregistrées, on va avoir des œuvres qui vont se développer en temps réel et qui vont permettre de constituer des jardins virtuels. Alors, je vous montre très brièvement quelques-unes de ces plantes, ici. Et donc, c'est ces plantes qui vont permettre, en quelque sorte, de créer ces jardins. Donc, certaines vont pousser très vite, mais elles vont mourir très vite. D'autres vont pousser très lentement, et donc elles vont avoir beaucoup plus de durabilité dans le temps. Et donc ça, c'est toutes les versions différentes de ces fleurs que j'ai créées. Et à partir de là, donc là, vous allez voir, donc, on voit un petit peu ces fleurs se développer. On a introduit la notion du vent, mais surtout, vous voyez, ces plantes se courbent, c'est-à-dire qu'on a aussi mis en relation ces plantes avec des capteurs, et donc ces installations, du coup, vont pouvoir réagir avec le déplacement de corps des spectateurs. ces jardins, toutes ces fleurs permettent de constituer ces jardins, et à partir de là, donc, on peut composer des installations où on peut se déplacer à l'intérieur. Donc ce sont un peu, en quelque sorte, comme une espèce de nymphéa numérique, si vous voulez. Au fond, on parlait de chat précurseur de l'Internet, du réseau. Au fond, Monet, qui a travaillé sur le rapport au temps et au changement en 1880, au fond, préfigure cette idée d'une œuvre qui va évoluer. Au lieu d'avoir plusieurs tableaux sur le même écran, on va avoir un processus génératif, si vous voulez, qui va se développer. Donc on voit ici cette première installation en 2004. Et j'ai fait aussi des œuvres qui sont présentées dans des serres gonflables, comme on voit ici, qui ont été présentées dernièrement à Beaubourg. Et donc quand vous vous déplacez autour de cette serre, les plantes aussi, soit elles se développent plus rapidement, soit, comme ce sont des plantes tridimensionnelles, on peut les voir sous différents aspects. Voilà. Alors ensuite, donc en 2004, l'équivalent de la RATP norvégienne m'a demandé de créer une installation dans le métro, puisque ce sont des fleurs de lumière. Donc j'ai créé avec des vidéoprojecteurs et donc des ordinateurs, des plantes qui sont projetées de part et d'autre des couloirs, et quand les gens passent dans ces couloirs, donc les plantes se courbent au fur et à mesure que les gens passent en forme de révérence, en quelque sorte. Donc du coup ça crée beaucoup de, si vous voulez, ça crée un rapport d'une part intéressant avec le public, puisque le public, dès qu'il détecte ces œuvres, cette forme d'interactivité, donc ça crée les gens courent dans le métro, enfin, reviennent, donc ça crée tout un univers assez étonnant. Et surtout aussi, chaque jour, si vous voulez, comme ce sont des jardins génératifs, chaque jour, ces univers vont évoluer, se transformer, etc. Donc là, on en voit quelques-unes très brièvement. Ça a été présenté donc, dernièrement à Tours. Donc c'était un jardin qui faisait 40 mètres de long. Et donc ce jardin lui-même était interactif. Donc là, on voit quelques-unes de ces plantes. Donc, et quand les gens s'approchent, donc les plantes aussi réagissent donc, au déplacement de ce corps. Enfin, ça a été présenté dernièrement au musée de Daejeon à Séoul, donc en Corée, au mois de septembre dernier. Et donc là, les jardins faisaient 8 mètres de haut par 20 mètres de long. On voit très brièvement, là, vous voyez, les gens qui réagissent au cours. Pour réagir ces plans. Et donc, du coup, on peut créer des jardins de plus en plus grands, si vous voulez, avec ce processus de logiciel génératif. Donc, ça, c'était encore dans les musées. Ensuite, ça s'est développé à l'échelle urbaine, c'est-à-dire qu'à Buenos Aires, au festival de Buenos Aires, donc, les plantes se développent sur les façades et réagissent aussi quand les gens passent sur les pieds, sur les trottoirs. Voilà, donc ça c'était à la Nuit Blanche à Paris, donc dans le 13e arrondissement. Et donc c'était un peu le même processus, c'est-à-dire que ces plantes se sont développées sur à l'échelle de cette façade. Et donc quand les gens passaient sur les passages piétons, les plantes aussi réagissent. Voilà, donc ça c'est pour l'univers de surnature. Je vais vous montrer le dernier projet qui est en cours, donc qui est un projet assez ambitieux, qui est un projet d'une autre nature, qui est une œuvre pour la place Djemnaïfna, qui était la grande place de Marrakech. Et donc c'est une œuvre qui s'appelait Arabesque numérique, qui est en quelque sorte, vous savez que l'art islamique est un art très géométrique, et la notion des éliges et de la mosaïque, on peut renouveler cette notion de la mosaïque à partir de la notion du pixel. Et à partir de là, donc j'ai composé à partir de structures fractales avec un ami qui s'appelle Eric Wenger, qui pourrait être aussi peut-être un prochain chapitre. Voilà, qui est un artiste qui a développé beaucoup d'œuvres à partir de la notion des fractales. Et donc on a imaginé donc des structures qui revisitent donc cet art islamique, Et à partir de la notion du plan et du pixel, donc l'idée c'est de créer des tapis volants sur la place Tirmalka. Pour ceux qui connaissent, donc c'est une place où il y a une activité intense de soupe pendant la journée, et la nuit, donc il y a des tas de petits restaurants. Et donc l'idée est donc de créer des tapis gonflés à l'hélium. Vous savez, l'hélium est un gaz très léger. Donc ces tapis vont être gonflés à l'hélium, sont en quelque sorte comme des écrans. Et donc dessous, on va projeter tout un travail en relation avec cet univers de la mosaïque, du plan et des églises donc, qui se font dessus de ces petits restos. Donc je vous convie en juin 2007 à venir à Marrakech pour voir ces tapis volants, donc, dont certains sont imprimés aussi pour qu'on les voit de jour. Et donc voilà, donc ces arabesques numériques et ces constellations numériques donc vont ponctuer, j'espère, si tout va bien, le ciel de Marrakech au mois de juin 2007. Voilà, brièvement.
Merci, Nicolas Chevalier. Je crois que le jury a bien travaillé. En tout cas, c'est vrai qu'on a toujours du mal avec les transitions, alors je ne vais pas tout faire parce que je peux aller vers le point 4. Oui, je vérifie maintenant à chaque fois que j'ai le droit. J'appelle donc Jean-Michel Guillot, s'il vous plaît. Monsieur le Club de l'Arche, monsieur le Tréonetti, pour monsieur Toussaint, monsieur qu'on connaît, qui va remettre le prix entreprise, moins artistique, mais tout à fait nécessaire.
Là, il faut tout pour faire un monde. Bien écoutez, bonjour, c'est toujours très sympathique ce genre de réunion. J'espère qu'on est souvent passé, ça vous permet de vous retrouver. Donc, ils sont un peu les papilles et les mamies de l'Internet en France. Donc, j'appelle, il est où? Alors c'est un peu différent de la géographie intelligente ou statistique qu'on expliquera un petit peu. Et là je crois que pour ceux qui ont démarré un peu l'internet en France il y a une dizaine d'années, il y en a quand même dans cette salle, et on se demandait si vraiment les Français allaient s'y mettre un jour. Je crois qu'il se passe quand même des choses dans ce pays, c'est encore un peu flageolant. Mais après le cheveu on a bu, et puis on va arriver des start-up. Alors monsieur, c'est peut-être pas là, il a monté une start-up, mais pourquoi pas. Il se passe quand même pas mal de choses dans ce pays. 50% des foyers sont vraiment sur l'internet. Il se crée des tas de choses dans ce pays, c'est peut-être le repos de la France. En tout cas, je suis extrêmement heureux de vous remettre la chapeau. Vous allez nous dire quelques mots de ce que vous faites exactement, qu'on puisse bien comprendre.
Je vais essayer, rapidement. En fait, Artic est un produit de laboratoire, un petit peu de la société que j'ai créée en 1989. J'étais universitaire, je traînais mes lettres un petit peu au CNED, pour certains bien. Et on a créé un produit, on voulait créer un produit avec une lettre en barre qui permettait en fait de distribuer des données statistiques sur des cartes avec un logiciel de cartographie. Pas du tout d'itinéraire, ne confondez pas, c'est donc de mettre les chiffres et les qualités sur des cartes de manière intelligente. Et c'était un peu trop ambitieux, donc nous avons dit de nous contenter de faire un simple logiciel qui s'appelle Carte et Données. Et en 99, on avait commencé à travailler sur Internet, et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu l'ERICA, et donc on a commencé à faire de la cartographie pour donner aux communes du littoral la possibilité d'afficher les informations du concernant et d'un simple coup d'œil de pouvoir voir énormément de choses et surtout de les transmettre à plein de gens. Et du coup, la SNCF, la CFE-CGC, EDF, Airbus, c'est ça, demande aujourd'hui. Ah, pas vraiment, non. C'est de la graphie, mais c'est pas de la cartographie. Donc aujourd'hui, on est très très contents parce que bon, on vient de terminer l'année avec 70% de croissance de chiffre d'affaires, avec 100% de croissance en effectif. Alors on n'était pas un, on était quand même 12. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, 24 à l'échelle européenne, on est parmi les grandes données statistiques cartographiées. Et donc on est très très contents aujourd'hui et on est merci vraiment pour vous parce que ça va nous servir.
Comme mon écran, comme j'ai pas eu droit à la carte à fleurs, j'ai droit à l'écran. Hein. j'ai aucun doute sur le fait que ça agrémente agréablement la soirée. Invité suivant, c'est moi-même, ce qui est un exercice toujours formidable quand on est seul à un micro. Je m'appelle donc pour remettre le prix dédié à la société civile et j'appelle Florence Durand-Tornard. Alors, je prépare un petit discours, je vous en prie. Il n'y a pas de raison. Alors, je suis pas debout en prenant le micro de manière un peu bizarre, mais ça fait rien, le cœur y est. Pour ceux ou celles qui ne la connaissent pas dans la salle, je crois qu'on est content d'avoir choisi Florence, parce que, enfin, en tout cas, moi, je fais partie des gens pour qui le terme société civile est un terme un peu bizarroïde dans lequel on a tendance à mettre tout et le reste. Et je reconnais à Florence un mérite, puisque c'est des mérites qu'on remet ce soir, des chapes d'or, d'avoir sillonné, elle, la France, pour observer et pour convaincre, de choses qu'elle fait assez bien, je trouve, et convaincre qu'il fallait fonder un label Ville Internet, convaincre qu'il fallait continuer ce label Ville Internet, qui n'est pas gagné. Elle est convaincue aussi que les outils aident à la démocratie locale. Des fois, je suis étonnée, mais elle me convainc à chaque fois. Elle convainc un nombre incroyable d'élus et de villes en France et à l'étranger et depuis des années. J'ai donc un grand plaisir à lui remettre cette chape d'or au nom de la société civile 2006.
Vous pouvez toujours nous contacter si vous avez des choses à faire. Et puis j'étais aussi content pour une troisième raison. On va toujours parler de l'Internet, c'est une raison un petit peu paradoxale, avec laquelle il me conduit à travailler au CNRS il y a quelques années. Et on a un copain commun, un copain qui a fait une demi-page dans le monde la semaine dernière, un copain qui travaille sur la genèse du langage avec les Indiens d'Amazon, les Indiens Mundurucu, 1500 personnes en voie de disparition. Et ce copain qui fait un séjour régulier là-bas chez les Indiens, très très loin, cherche depuis des années un moyen d'avoir accès à Internet dans cette tribu, au fond. Alors, là encore, je passe le chapeau si quelqu'un a des idées pour nous aider à permettre à ces Indiens Mundurucu qui ont la particularité de ne pas savoir compter au-delà de 5, au-delà de 5 lignées d'ombre, pour nous aider justement à pouvoir mettre à la fois les chercheurs en contact avec les laboratoires, le CNRS à Paris, le MIT aux États-Unis. Ça c'est quand même traduit, le fait est notable. C'est la première fois qu'un linguiste français, en peu de temps, a publié en octobre dernier dans Science, et là, tout récemment dans Nature. C'est remarquable, l'aider à utiliser Internet, ça serait pas mal non plus. Donc je fais une pierre de coup grâce aux gens qui sont ici. Merci.
La tradition voulait, veut,
la tradition veut que parmi les catégories de personnalité que nous souhaitons renommer, se trouve la catégorie des politiques. Le fonctionnaire que je suis s'est courageusement abrité derrière le jury pour choisir la personnalité que nous souhaitons honorer ce soir. Titre de son activité dans le domaine de l'Internet en 2005. Et la personnalité qui a été choisie par le jury en toute indépendance, c'est Catherine Trottmann. Et je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir dire quelques mots à son sujet. Catherine Trottmann est une personnalité que j'ai pu apprécier, qui est particulièrement courageuse et indépendante. On ne peut pas soupçonner d'être à la remorque de tel ou tel lobby ou puissance économique, et nous l'avons vu en 2005 dans le cadre de ses nouvelles activités au Parlement européen se déployer beaucoup d'énergie dont elle est capable pour obtenir que l'Union européenne ait une position harmonisée et autorité vis-à-vis du sommet mondial de société d'information qui a eu lieu en novembre. Non seulement la position qu'elle a proposée a été suivie par le Parlement européen, mais maintenant, le Parlement, grâce à elle, grâce au travail qui a été fait dans ce cadre, l'Europe a sa place dans le nouveau forum de la gouvernance qui est issu du sommet mondial de société de l'information. Donc c'est le travail qui a été réalisé au niveau européen par une Française, femme politique française, que nous voulons honorer ce soir en lui remettant le chapeau. Catherine Trottmann aurait voulu être avec nous ce soir. Elle m'a dit très gentiment au président du jury. La remise de la décoration aura lieu une autre occasion. Je fais confiance à nos amis de l'ISOC France qui savent organiser cette grande manifestation, de trouver une prochaine occasion, et très vite, je pense, hein, je ne vais pas parler à la place du président Guizot qui est là, qui pourrait éventuellement en dire plus, mais en tout cas, je me tiens prêt remettre le chapeau d'or à Catherine Trottmann à la prochaine occasion qui pourra être organisée. Voilà ce que je voulais dire.
Moi, je tiens à féliciter ce ce jury. Il y a 3 ans, je lançais un appel solennel à Autran qui restait dans certaines mémoires où je disais que j'avais 85 à 90% d'hommes devant moi et que l'Internet ne serait pas s'il n'était pas féminisé ou s'il n'était pas moitié homme, moitié femme à l'image de l'humanité. Je constate que le jury 2006, sans que j'ai eu besoin d'envoyer des lettres de menace, progresse. Il y a quand même 3 femmes, dont une n'est pas là, mais effectivement le regrette, qui ont été élues cette année. Donc félicitations, et nous arrivons au prix spécial du jury, et je demande à mon vieux complice Louis Cousin, qui doit se cacher pas loin de moi, je l'ai vu arriver tout à l'heure, de venir me rejoindre pour remettre ce prix spécial du jury. Louis. Il est moins secret que les autres, le prix spécial du jury, donc j'ai une petite idée de la personne à qui tu dois la remettre, mais je te laisse quand même le soin de l'annoncer. Et le pourquoi.
Un papy qui donne un prix à un papy. Oui, alors le prix, je vais le citer tout de suite pour que votre société disparaisse tout de suite, c'est Jean-Yves Bobrino. C'est un vieux compagnon de route, n'est-ce pas? Il est tombé dans l'Internet comme Astérix est tombé dans la nation d'Égypte. Et son parcours remonte aux années 60, enfin, au milieu des années 70 à peu près, il connaît ça, oui. Alors il a suivi toutes sortes de missions. Il a fréquenté des gens très importants et non seulement très important, mais aussi très intelligent et très actif. Et je crois qu'il a fait preuve d'une grande capacité d'adaptabilité, parce que pour supporter des gens intelligents toute sa vie, il faut vraiment avoir le corps bien accroché. Alors, Jean-Yves a pris sa retraite il y a très peu de temps, d'ailleurs j'étais à son pot de départ, il a raconté sa vie, on aurait dû l'enregistrer, parce qu'on pourrait la resservir comme ça utilement. Alors, je ne vais pas en dire trop. Jean-Yves de Saint-Lavas. Ah oui, il y a Pierre. C'est pas fort, ça. Ah ben, tu vas prendre la tête, et en plus, c'est ASCII.
Oui, alors, moi, je serais quand même utilisé. Merci à vous tous de m'honorer aujourd'hui, et d'honorer à travers moi tous ceux qui ont été des pionniers d'Internet depuis de très très longues années. Effectivement, je suis en retraite depuis 6 semaines. D'autres ont succédé comme Mathieu Veil, la direction technique. Moi, c'est une aventure qui a démarré dans les années 70, qui s'est accentuée dans les années 80 en devenant l'adjoint du professeur Lyon, président d'INRIA, homme effectivement éminemment intelligent et que je souhaite à chaque fois citer un exemple. Il est décédé aujourd'hui. C'était un très grand mathématicien, mais c'est un homme visionnaire. Et il m'a reconnu de lui-même, c'est-à-dire c'est pas moi qui t'ai trouvé, c'est lui qui m'a trouvé, parce qu'il a pu trouver chez moi quelque chose que je ne connaissais pas, cette capacité de vision. Je veux bien me reconnaître, avoir à chaque fois, un petit peu comme quelqu'un qui suivrait un train, qui s'occupe du signe du train, de l'aiguilleur. Le train de l'Internet a été constitué par d'autres qui ne sont pas forcément présents aujourd'hui, mais qui ont joué un rôle absolument fondamental en faisant chauffer des chaudières, en faisant avancer le train, des wagons, etc. Et ce sont eux qui ont fait avancer. Moi, ce que j'ai fait, c'est d'indiquer à chaque fois au train quel passage, je reconnais que j'ai contribué à ça, quel gare atteindre, la suivante, toujours la suivante, toujours la suivante, et toujours essayer d'avoir une vision d'avance. Et ça, c'est ce à quoi j'ai servi, parce que pour moi, dès 80, et fort curieusement, parce que je ne l'ai pas fait exprès, le premier schéma directeur de l'INRIA, il comportait une vision de l'un moyen informatique servant à communication entre tous les hommes, voix, données, images intégrées. En 80, c'était ultra visionnaire. En 88, je parlais du multimédia sur le réseau, je retrouvais cette idée en 88 au Conseil scientifique de l'INRIA, en disant demain, l'Internet permettra à tous les hommes, quelle que soit leur localisation et quelle que soit leur activité, de communiquer en se voyant, en se parlant, en échangeant des informations multimédia.
Et ceci indépendamment donc des langues, des cultures, etc. Et puis l'étape suivante, c'était en 95, c'est de dire, ben, l'Internet est méfiant de nous, il faut qu'il serve tous les hommes, quelle que soit leur activité, quelle que soit leur localisation, et de dire, sous mes Cotonou, il faut absolument éviter la fracture nord-sud. Il faut éviter toutes les fractures entre les gens, que l'Internet serve à tous les individus dans tous les peuples. Donc voilà ce que j'ai voulu faire toute ma vie, alors ce que je retrouve dans Sharpe, par exemple, c'est cette conviction que j'ai essayé de communiquer systématiquement. C'est-à-dire, d'abord, savoir écouter les techniciens, la multitude des techniciens qui sont autour de vous, faire une synthèse de ce qu'ils peuvent dire, et ensuite savoir transformer cette vision pour la communiquer, convaincre des décideurs, et d'être donc une espèce de relais de transmission vers des responsables de très haut niveau, vers des ministres, voire même des présidents. Donc, c'est trop de conviction que je viens de me reconnaître, pas forcément celui qui a fait avancer toujours le train, même si je suis un scientifique, évidemment. En tout cas, merci à tous ceux qui ont fait l'Internet, qui ont rendu possible tout ce que nous avons eu là. Je trouve merveilleux, sur les arts. Merci à Catherine Tankman, parce que figurez-vous que j'ai beaucoup d'estime pour elle, je ne la connaissais pas, mais elle m'a décoré le chevalier des arts et des lettres, comme d'autres, pour avoir rendu service aux arts en aidant, en contribuant à créer l'Internet, à développer l'Internet, mais qui a servi en particulier aux arts. Aussi, félicitations à ceux qui travaillent sur l'administration, aussi je les admire beaucoup. Ça nous fait grand plaisir à nous, les anciens, de voir que tout ce que nous avons fait pendant des années, je ne raconterai pas ma vie, effectivement, comme dit le cousin, c'est parfois s'asseoir par terre. Vous m'aiderez. C'est vraiment amusant quand vous avez vécu 30, 40 ans comme ça, de vie active et de voir l'évolution de l'Internet, de l'évolution de l'informatique, enfin, de l'Internet en particulier. Donc merci à ceux qui, aujourd'hui, savent exploiter tout ce que nous avons fait et qui n'oublient jamais qu'ils doivent penser à ce que tout ce que nous faisons doit servir à tous. Tous, et pas seulement chez nous en France, nous devons développer, c'est tout par monde. Sinon, ce sera une fracture très dangereuse pour tous nos enfants, pour la société pour plus tard. Merci à tous.
Eh bien, nous arrivons à la fin de cette remise des prix, donc au discours de conclusion. Je donne donc la parole à mon président de l'ISOC, Multicar, puisqu'il est président du jury, président de l'ISOC France et également président d'organisation de génie, comme chaque année. Donc, Sébastien Bachelet pour la culture. Alors, je peux leur donner juste le programme avant. Si j'ai bien compris, après on descend, on va écouter les vœux, on va regarder le magicien, on va boire des coups, c'est bien tout ça, Christian. Donc après Sébastien, je vous assure qu'il va faire court. Allez.
Je suis bien obligé de faire court. Il y a quelques semaines, Christian Blain m'a demandé de présider ce jury. J'imaginais pas à la fois la difficulté de la tâche et en même temps le plaisir que ça pouvait apporter, parce que je trouve ce soir que ce qui est très intéressant, c'est que si vous voulez, si j'avais eu un objectif, l'équilibre homme-femme me semblait être essentiel. On y est presque arrivé, on y serait arrivé si quelques difficultés de dernière minute s'étaient pas mis de la partie. Donc cet équilibre-là, l'équilibre aussi important des anciens qui ont amené tant de choses et qui passent, qui continuent à agir, mais qui aident des nouveaux à prendre place, et donc qui est aussi cet équilibre là, l'équilibre entre des chercheurs, des pasteurs, mais aussi des artistes. Je suis très content de ce mélange, et j'espère que vous l'êtes aussi. C'était important pour nous cette manifestation du côté de l'ISOC parce que nous fêtons les 10 ans de notre association et je sais que nous fêtons beaucoup de 10 ans cette année. Si j'ai bien compris, c'est aussi les 10 ans d'Adminet, c'était les 10 ans qui ont été fêtés et je vois avec plaisir que Thierry Godin, le président d'Autran, est là parmi nous. On a fêté les 10 ans d'Autran. Donc nous sommes dans une année d'anniversaire Et je trouve que la fêter avec cette remise dans le cadre de l'Internet est une très bonne chose. Il y a d'autres anniversaires, le 20e, oui, ils étaient un peu plus précurseurs, oui, ils ont fait des choses avant. En fait, ils ont été obligés de se créer leur structure bien plus tôt. C'est l'IETF, donc il y a des organismes qui aident à standardiser l'Internet, qui fête ses 20 ans, qui a fêté il y a quelques jours ses 20 ans. Donc c'est tous ces éléments-là. Cette année, je dirais l'année dernière, 2005, était une année importante. Tout le monde se disait qu'est-ce qui va se passer au sommet mondial de l'information, qu'est-ce qui va sortir de là, qu'est-ce qui va se passer. Et j'ai l'impression que 2006 est aussi une année importante. Alors, on peut se reposer la même question, qu'est-ce qui va sortir du sommet de la réunion sur qui s'appelle le Forum de la gouvernance de l'Internet ou pour la gouvernance de l'Internet. Mais il y a aussi un certain nombre d'autres éléments qui sont importants cette année. Du côté de l'UIT, la réunion qui a lieu tous les 4 ans, qui réédit l'ensemble de l'organisation, va se tenir au mois de novembre cette année. Du côté de l'ICANN, au mois de septembre, c'est le moment où il va se passer quelque chose, quoi qu'il arrive, puisque le MOU, l'accord entre le gouvernement américain et l'ICANN se termine au mois de septembre, donc qu'est-ce qui se passe après? Le forum sur la gouvernance de l'Internet qui va se réunir et qui se prépare dans 15 jours à Genève, tout ça sont des éléments importants qu'il faut avoir en tête. Et j'espère que l'Internet sera, et ça c'est un de mes voeux, que ce sera un Internet ouvert, accessible à tous, comme l'a dit Jean-Yves, quand on dit tous, c'est pas seulement tous dans sa rue ou tous dans son village, mais c'est tous dans le monde entier. Et les motifs de l'ISOC étant l'Internet pour tous, c'est encore aujourd'hui absolument indispensable de se battre pour ça, que ce soit dans les zones non couvertes en France ou mal couvertes en France, et que ce soit dans les zones non couvertes dans les autres pays du monde. Il faut continuer à agir pour cela. Je vous remercie de votre présence ce soir. Je vais m'arrêter là, sinon je vais me faire discuter par plein de gens, et en particulier par ma vice-présidente. Et vous avez un certain nombre de choses à remplir, les vœux de l'Internet.
Oui.
Mon trésorier me rappelle, il a tout à fait raison. Si vous n'êtes pas membre de l'ISOC, devenez membre de l'ISOC, et si vous n'êtes pas membre des autres organisations, devenez membre de ces autres organisations aussi. Je ne vous les listerai pas parce qu'il y en a beaucoup. Je les remercie de leur participation ce soir, et puis je voudrais remercier le CNAM de son accueil ici, tous les départements qui nous ont aidés, en particulier ceux qui ont permis que les vidéos se passent bien, le son se passe bien. Et voilà, je vais m'arrêter là. Merci à tous et maintenant, profitez-en pour moi.